Je vais me mettre en détection de voix, si ça ne vous dérange pas.
Ouais, vas-y, hein. Tu vas pouvoir, t'as le statut pour.
Voilà. Est-ce que on est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez accéder au stream? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, non, peut-être.
Ouais, moi je vois l'écran, on entend ta voix.
Il n'y a pas de bruit parasite derrière au fond?
Non, c'est clean.
Donc pour ceux qui veulent, donc c'est streamé ici, sinon c'est rediffusé sur Twitch. Pour ceux qui galèrent avec Discord, j'ai mis le lien du coup, Praly a mis le lien. Donc voilà. Donc on va faire un livre blanc qui va faire un peu, qui va être une suite ou un préquel, je sais pas trop, au livre blanc de Obi-Wan sur les systèmes d'exploitation. Et on va partir d'un exemple concret, c'est-à-dire GNU Linux. Je vais faire un avant-propos, puisque du coup ce livre blanc va beaucoup utiliser. Enfin, vous allez devoir suivre le livre blanc en streaming. A priori, juste en vocal, ça devrait pouvoir passer. Je vais essayer d'être le plus descriptif possible. Dites-moi, faites un retour si ceux qui écoutent le podcast en rediffusé, si c'était très clair. Et j'essaierai de mettre du coup, en diffusant le podcast, on mettra les liens, tout ça, pour que vous ayez un support et pouvoir suivre, même sans le stream. Au pire, de toute façon, il y aura sur Twitch la rediffusion qu'un jour. Petit avant-propos avant de commencer le livre blanc concrètement parlant. C'est pas un livre blanc qui a la destination de présenter GNU Linux en tant que, enfin, pour un utilisateur lambda. Ça va être d'un point de vue assez technique, mais accessible pour n'importe qui. Antidox, le lien est juste en haut. Praly l'a posté. Donc ça va être. C'est Kali Linux que tu présentes, Zilo. Non, ça va pas être Kali Linux. Donc ça va pas être une présentation de Linux pour utilisateur lambda. Donc faut bien faire gaffe à ça. Faut pas se dire ah là là ça a l'air compliqué, ah là là ça a l'air bizarre ou ah ça marche pas très bien, c'est pas très intuitif. Bah clairement ça va pas être le cas. On ne voit pas mon écran sur Twitch. Ah attends. Transition, voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça, Bento? Mais merci de me l'avoir signalé. Bon, on va dire que c'est bon. Du coup, on va commencer déjà par une introduction pour ceux qui ne connaissent pas trop GNU Linux. Déjà, on va commencer par la petite histoire. Qu'est-ce que le logiciel libre? Donc, pour avoir la longue histoire, version longue, et bien expliquée, bien détaillée avec la philosophie et tout ce qui va avec, j'avais déjà fait un livre blanc sur le logiciel libre et que vous pouvez consulter dans les podcasts sur le site internet de l'Afterthinking. Donc allez l'écouter si jamais vous ne l'avez pas écouté, si vous ne connaissez pas trop le logiciel libre. Ceux qui connaissent déjà, je pense que bah, ils ne apprendront pas grand-chose. En tout cas, ici, je vais définir la base. Donc, dans les années 70-80, le logiciel propriétaire a commencé à émerger, et en réaction à ça, un certain Richard Stallman, que vous pouvez voir ici, ce monsieur tout barbu et tout chevelu, s'est dit que ça posait quelques problèmes philosophiques, moraux, que les logiciels soient propriétaires. Et donc du coup, notre prophète a donc créé le concept de logiciel libre en reprenant un truc qui s'appelait le copyleft. Donc en fait, c'est l'utilisation du copyright, donc le droit d'utilisation, pour justement faire en sorte que le droit d'utilisation soit caduc. Donc concrètement parlant, un logiciel libre, c'est quoi? C'est un logiciel libre dont on peut l'utiliser comme bon nous semble. Quel que soit le but, quelle que soit la machine sur laquelle on fait tourner le logiciel, il faut également que le code source soit accessible à tous, qu'on puisse le consulter, le voir, l'étudier, qu'on puisse le modifier, qu'on puisse partager le logiciel et qu'on puisse partager les modifications qu'on a faites du logiciel. Et la seule condition à tout ça, c'est qu'on le partage toujours sous cette même condition, que ça soit un logiciel libre. Ce qui fait qu'un logiciel libre ne peut jamais théoriquement redevenir propriétaire. En créant ce concept, il s'est dit que c'était cool, mais si on faisait un logiciel libre à l'époque, bah, il n'y avait pas de système d'exploitation libre sur lequel le faire tourner. Donc, il a créé le projet GNU. Le projet GNU, donc, qui est symbolisé par ce logo. Voilà. Au milieu, vous voyez la tête de GNU. Et donc, en fait, le projet GNU, ça avait la vocation d'avoir des logiciels qui utiliseraient le logiciel libre, la licence logiciel libre. Donc, ça donnerait un exemple. Et en prime, ça avait pour but de créer un système d'exploitation complètement libre. Ce projet s'appelle GNU. Le système d'exploitation s'appelle GNU. C'est un acronyme qui veut dire GNU is not Unix. Donc GNU n'est pas Unix, puisque ce système d'exploitation GNU avait pour volonté d'être assez similaire, assez semblable à un autre système d'exploitation beaucoup plus vieux qui s'appelait Unix. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. En 1990, GNU avait presque terminé d'être complet. Richard Stallman avec des amis a presque terminé le système GNU. Et il manquait plus qu'un composant, le kernel. Donc en 1990, ils ont créé un kernel qui s'appelle URD, dont vous avez la page Wikipédia qui vous présentera un peu plus ce projet. GNU URD, c'est un système d'exploitation extrêmement complexe au final, qui a mis énormément de temps avant d'être fonctionnel. Et du coup, bah, en 1991, donc un an plus tard, il y a un étudiant de 22 ans qui a créé Linux. Bah, cet étudiant, c'était Linus Torvald. Beaucoup de gens ont été intéressés par ce système d'exploitation, par ce noyau en fait, le dernier composant qui manquait à GNU. Linus Torvald en 1992 rend le code source de Linux libre. Des gens se disent ça serait intéressant qu'on mélange GNU et Linux, ça fait le système d'exploitation GNU Linux qu'on connaît aujourd'hui et qu'on appelle par simplicité Linux. Donc en général quand on parle du système d'exploitation, on parle de Linux, quand on parle du noyau Linux, on dit du coup le kernel Linux ou le noyau Linux. Est-ce que Obi-Wan, tu veux définir déjà c'est quoi un kernel pour nos camarades, puisque tu as dû le définir la semaine dernière, j'imagine, enfin il y a 2 semaines.
Ouais, bah le kernel, ouais, c'est en gros, on peut dire que c'est la partie de l'OS qui va gérer le matériel, en fait, qui va configurer le matériel pour qu'il soit utilisable par les applications, on peut dire ça en gros, quoi. Ça va servir d'interface entre un standard d'application qui est POSIX quoi, pour Linux et le matériel. Quoi.
Tout ce qui est des lignes de process aussi, quand même.
Également.
Ouais. Bah ouais, parce que le CPU, on peut dire que c'est aussi le matériel en fait. Quoi.
Parce que c'est un interface. Pour faire simple, ouais, ça fait la jonction, ça fait le pont entre le matériel et le logiciel. Ça dit à vos logiciels, Discord, Firefox ou quoi que ce soit, comment utiliser le matériel, comment utiliser le graphisme, comment utiliser la carte réseau, comment utiliser votre micro et ainsi de suite. Pour faire simple, comment utiliser le processeur. Comment le processeur va gérer vos processus et ainsi de suite.
Et la mémoire et les disques durs.
La mémoire, les disques durs, tout. Du coup, on va commencer ce livre blanc. Donc, concrètement parlant, je vais vous présenter le système le plus minimaliste que je connaisse. On peut faire plus minimal, mais ça risque d'être compliqué. Et c'est Linux from scratch. Donc, pour les gens qui nous écoutent en podcast, vous avez un site internet qui s'appelle linuxfromscratch.org. Vous pouvez y aller. Vous aurez une liste de bouquins, en fait, et vous avez le premier lien, c'est LFS. À gauche, Read Online, et tout en bas, vous avez la version française, Stable Version, voilà. Lire LFS, lire la version 6vinit, on va prendre celle-ci. Et donc, en fait, Linux, c'est un système d'exploitation donc, qui est libre, open source, et forcément, il est modulaire. C'est-à-dire que, vous l'avez compris avec ma petite histoire, GNU avait prévu de faire un certain nombre de composants qui composeraient donc ce système d'exploitation. Ils avaient prévu un kernel, et au final, c'est pas du tout le kernel qu'ils avaient prévu qui a été utilisé, puisqu'en fait, bah, y a, comme a dit Obi-Wan, toute une norme POSIX, etc. Techniquement, en théorie, on peut remplacer chaque composant par un autre. Il suffit juste de le développer. Et il faut juste que ça réponde à certaines normes, à certains standards. Du coup, les gens ont commencé à se dire « Alors, tiens, c'est cool, mais un système trop basique, ça ne nous intéresse pas. » Donc ils se sont dit « On va créer des distributions. » En fait, c'est tout un répertoire de logiciels qui seront fournis d'un coup. Par exemple, quand vous avez Windows, bah, vous avez le kernel, vous avez le bureau, vous avez un gestionnaire de tâches, vous avez un gestionnaire de fichiers, vous avez Word, vous avez un navigateur Internet, vous avez plein de choses en fait déjà préinstallées. Sur Linux, c'est pareil, sauf que des gens se sont dit, bah, pour les serveurs, ça serait bien qu'ils aient ces logiciels-là. Pour un utilisateur lambda, ça serait bien qu'il ait une interface graphique avec des logiciels assez basiques pour faire de la bureautique ou ce genre de choses. Pour d'autres utilisations, par exemple pour le pentesting, des gens ont créé Kali Linux avec tous les logiciels permettant de faire du pentesting. D'autres distributions se sont dit, bah, on va faire une distribution pour des développeurs, pour des hobbyistes. Et donc, vous avez tout un tas de trucs différents. Linux from scratch, c'est pas du tout une distribution, c'est un bouquin. C'est un guide, un manuel d'utilisation, un tutoriel qui, en fait, explique, grosso modo, comment faire sa propre distribution Linux. On va pas trop tarder dessus parce que ça risque d'être compliqué. Je vais pas vous faire une démonstration de l'installation de Linux from scratch parce que ça prendrait la semaine, littéralement. Mais grosso modo, ça nous dit comment préparer un système, comment formater le disque dur, comment installer des logiciels de base et du coup comment avoir un système bootable, fonctionnel, mais du coup vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de logiciels dedans. Dans la préface, il y a écrit « Raison de la présence des paquets dans ce livre ». C'est ça qui va nous intéresser, c'est que du coup, chaque logiciel de ce système est listé. Donc en fait, ça peut vous donner déjà un ordre d'idée de quel genre de logiciel on a besoin pour un système d'exploitation, pour le faire fonctionner, même un système le plus minimaliste possible. Donc j'avais filé la liste à Obi-Wan, donc il a dû regarder un peu, il en parlera après, mais je vais pas déballer, je vais pas dérouler toute la liste en détail, parce que ça serait peut-être pas intéressant, certains outils ne sont même pas utilisés par des développeurs, mais sont nécessaires au système. Je vais juste parler de quel genre de type de logiciel on a à faire. Et en fait, par exemple, rien qu'en prenant le premier, par exemple, ce paquet contient des outils d'administration des listes de contrôle d'accès, Access Control List en anglais, utilisés pour définir plus finement les droits d'accès de vos choix pour les fichiers et les répertoires. Et vous aurez plein de logiciels comme ça qui vont permettre de gérer les droits d'utilisation sur les fichiers, qui vont permettre de créer des fichiers, les renommer, les modifier, les éditer. Vous aurez des outils, par exemple, plus bas, il y a tout ce qui concerne la compression à la décompression de fichiers. Idem pour Zlib, qui est un autre programme qui va être utilisé par des programmes. Vous aurez énormément de programmes qui seront en fait des outils de programmation, comme Autoconf, Automake, qui eux vont servir à faire de la compilation, à créer des logiciels en plus. Donc en fait, vous avez un environnement pour en créer d'autres. Vous aurez beaucoup d'outils qui vont vous permettre de faire du traitement de texte, on va dire, ou en tout cas de parser du texte. Par exemple, vous avez Gawk, qui est un langage de script qui permet de manipuler très facilement du script ou du texte ou du contenu de fichier. Idem, par exemple, plus loin, vous avez l'outil qui s'appelle Sed et qui est très utilisé par les programmeurs pour modifier du texte, reformater ou éventuellement modifier en masse des fichiers. C'est un truc très pratique. Vous retrouverez Python 3, qui est un langage de programmation qui permet entre autres de faire NoBot pour Discord. Perl, qui est également un langage de scripting. Vous avez beaucoup d'outils de programmation. Et dans le tas, vous avez quelques logiciels qui sont très intéressants, comme par exemple Bash. Vous aurez plus loin GCC, qui est donc un compilateur pour faire des programmes en langage C. Vous aurez Grub, qui est un chargeur d'amorçage, donc ce qu'on appelle un bootloader en anglais, qui est un peu plus courant comme nom pour ce logiciel. Et vous aurez plus loin Vim, un éditeur de texte, et également Sysvinit, le gestionnaire d'init. Que font ces programmes qui dénotent un peu du reste? Je vais les prendre dans l'ordre. Donc je vous ai parlé de Grub. Grub, c'est un... Il est où? Il est là. Grub, c'est donc un chargeur d'amorçage d'un système. Donc en fait, quand vous démarrez votre ordinateur, c'est le premier logiciel qui va se lancer. Et c'est lui qui va regarder quels sont les systèmes d'exploitation installés sur votre machine et qui va vous donner le choix, par exemple, de démarrer sur Windows ou sur Linux ou sur n'importe quel autre système qu'il y aurait d'installer sur votre machine. Donc ça serait déjà un premier logiciel qui est extrêmement important puisque sans ça, vous ne pourrez pas démarrer sur votre machine. Théoriquement. Enfin, en tout cas, pas de façon pratique. Vous avez un autre outil qui est très intéressant qui va s'appeler Sysvinit. Quand le bootloader démarre, il va dire je vais démarrer sur Linux. Le kernel va donc se lancer pour pouvoir gérer tous les programmes. Et le premier programme qui va être lancé par le kernel, c'est le gestionnaire d'init. Le gestionnaire d'init, c'est le programme qui a l'identifiant numéro 1 et qui va grosso modo gérer les autres programmes. Par qui ils sont possédés, quel est l'utilisateur qui a lancé le programme, Et ainsi de suite. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails. Je pense qu'on pourra en rentrer éventuellement dans le détail plus tard quand on fera des questions-réponses. Donc si vous avez des questions sur ce que c'est qu'un initialisateur de système, notez-la et on y répondra plus tard. Et enfin, dernier programme que je vais présenter assez rapidement, ça va être Bash. Donc c'est un shell. Et donc grosso modo, c'est ce qui vous permet d'avoir une interface entre vous et la machine, ce qui va vous permettre de saisir des commandes et donc de travailler avec un système même minimaliste. Et je vais vous le présenter tout à l'heure visuellement, vous allez voir à quoi ça ressemble. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Obi-Wan, sur les programmes que tu as pu voir? Est-ce qu'il y a des trucs essentiels qui...
Non, non, ça va, c'est bien.
D'accord. Du coup, pour les développeurs, pour les personnes qui sont un peu plus calées en informatique, je vous conseille de... Je vais vous mettre sur le chat et du coup, je vous conseille de regarder un peu le... je pose dans le bon chat, oui. Je vous conseille du coup de regarder un peu cette liste-là, c'est intéressant, je trouve. Et puis de façon générale, pour les personnes un peu compétentes, même qui ne sont pas spécialement compétentes, ça peut être sympa de parcourir le livre, au moins de le lire un peu. Il y a des documentations très intéressantes concernant Linux et puis ça vous apprend 2-3 choses.
En fait, que tu n'as pas dit, c'est en fait pourquoi il y a beaucoup d'outils en fait, de build, c'est parce que Linux est censé être self-hosted, c'est-à-dire qu'on est censé pouvoir le construire à partir des sources, à partir de lui-même, ce qui fait qu'il y a plein d'outils en fait, qui servent à compiler des programmes un peu complexes, parce que normalement le système est capable de s'autocompiler.
Voilà. Et donc on va passer à la deuxième partie du livre blanc, qui est un peu plus concrète, où du coup on va partir d'un système de base et on va voir à quoi, quoi ressemble un système assez basique et quels sont tous les outils qu'il va falloir installer pour avoir un système fonctionnel. Donc je vais configurer ma machine virtuelle. On ne peut pas choisir type Linux, version over Linux 64 bits, non. After thinking, suivant quantité de mémoire. Allez hop. Créer un disque dur virtuel. Maintenant. Voilà. Taille fixe. Suivant. On va lui mettre 20 gigas. Créer. Ça va être assez rapide. Configuration. Système, processeur, on va lui donner un peu plus de CPU histoire que pas trop en guerre, même si théoriquement il n'y aura pas grand chose à faire. Affichage pareil, on écran, stockage. On va rajouter mon petit disque dur. Ok. Et on va démarrer dessus, normalement ça devrait fonctionner. Démarrer. Alors, je crois qu'on peut normalement changer la... Ah oui, on peut pas changer l'échelle pour l'instant. Donc la distribution que je vais utiliser s'appelle Arch Linux. C'est pas une distribution pour les utilisateurs lambda, c'est plus pour les personnes qui sont désireuses d'apprendre, on va dire, ou des personnes qui connaissent déjà. Et vous allez voir parce que l'installation est quand même assez particulière. Donc c'est un très mauvais exemple de ce que c'est que Linux en tant que tel. Je tiens à le préciser, à le repréciser. On démarre et vous allez voir à quoi ça ressemble du coup l'installation de Linux, ça va être assez funky. Pour les personnes qui nous écoutent du coup en podcast, il y a le site de Arch Linux, il y a un Wikipédia avec Installation Guide en anglais, et je vais me baser sur ça donc pour faire ce livre blanc. Donc, concrètement parlant, vous pouvez vous baser là-dessus pour un peu suivre où on en est au niveau de l'installation. Vous n'aurez pas le visuel, mais vous aurez à la rigueur la documentation. Et voici, à gros, à quoi ça ressemble. Donc, tout à l'heure, je disais, on a un shell, le bash. Bah, grosso modo, alors c'est pas bash là, mais c'est un shell. Donc, vous avez une ligne de commande, un truc qui clignote. Et si vous appuyez sur ls, par exemple, il n'y a pas de fichier. Si vous affichez les fichiers, par exemple, vous voyez en fait avec une commande, vous pouvez afficher la liste des fichiers qu'il y a dans le répertoire en cours. Vous pouvez afficher où vous êtes dans le dossier. Et je vais changer pour un clavier français, histoire d'arrêter d'écrire n'importe quoi. Du coup, Linux, ça va s'installer en plusieurs temps. Je vais vous faire un peu un résumé rapide avant de me lancer là-dedans, pour histoire que vous puissiez tous suivre. Il y a déjà tout ce qui est préinstallation, j'ai déjà fait, puisque c'est avoir l'image et pouvoir booter dessus. Au niveau des choses à faire. Donc, il y a déjà vérifié qu'on soit connecté à Internet. Mettre à jour l'heure. Ensuite, on va faire le partitionnement des disques, ce qui sera l'occasion de parler des systèmes de fichiers et d'un système d'exploitation. On va ensuite formater les partitions. Donc c'est là où on parlera du système de fichiers de Linux et potentiellement de Windows, même si j'imagine qu'Obi-Wan en avait parlé il y a 2 semaines. Ensuite, on va concrètement passer à l'installation et on va voir tous les outils qui seront installés et la configuration à faire pour avoir une machine qui fonctionne. Donc, première chose à faire, on va vérifier sur quel système de boot on est. Donc aujourd'hui, il y a 2 types de boot qui existent, le système BIOS et le système EFI. Obi-Wan, si tu veux expliquer rapidement ça pendant que je configure.
L'UEFI, ouais, c'est le firmware en fait de la carte mère, quoi, qui se démarre. Bah, en fait, dès qu'on met un power on, en fait, quoi, ça appelle des routines dans la carte mère avec la CPI. Ça initialise le matériel. Et l'UEFI, ça fait partie en gros du firmware de la carte mère qui va initialiser au début toutes les cartes qui sont branchées sur l'ordi, quoi. Le CPU, un peu la mémoire, enfin selon les cartes mères, quoi, il va initialiser un peu tout, et après, une fois qu'il a initialisé le matériel, il va charger le secteur de boot. Alors ça se configure dans le BIOS, en fait. Hein, on peut configurer sur quel truc on va booter, sur quel périphérique on va booter, mais ça peut être plein de configurations différentes. Là, dans le cas, je pense, ça va être sur un disque dur, ou je suppose.
Ouais, ça va être... Bon, là, je suis sur une machine virtuelle, mais du coup, ça sera sur un disque dur. Ça sera tout comme. Donc je ne suis pas un UEFI, donc ça va être en mode BIOS, en mode comme à l'époque, à la vieille époque. Donc je suis bien connecté à Internet. Et mon horloge de ma machine est configurée. Alors ça, je vais le mettre là, histoire qu'il me dérange moins. Et ça, je vais le mettre là, histoire que ça me dérange moins. Comme ça, j'ai que mes 2 fenêtres. Alors, première chose à faire pour installer un système Linux, déjà, c'est de savoir dans quel disque on va l'installer. Donc, avec une commande magique, fdisk-l, je vais lister la liste de mes disques durs. Et vous voyez que là, j'ai un disque dur, /dev/sda, qui fait 20 gigabits, donc c'est le disque que j'ai créé, virtuel. On va utiliser fdisk/dev/sda pour le configurer. Donc ce qu'on va faire, c'est que il y a une option qui s'appelle Add a new partition, donc on va créer une partition primaire. Alors, qu'est-ce qu'une une partition primaire? Une partition étendue. À l'époque, avant EFI, donc le mode BIOS de l'époque, on avait le droit qu'à 4 partitions primaires, c'est-à-dire que vous pouviez au maximum installer 4 systèmes maximum, ce qui était même faux, puisque en général, il y avait toujours un système réservé au boot, une partition réservée au système d'exploitation et potentiellement une partition réservée aux données ou ce genre de choses. Et du coup, on était très restreint là-dessus. Et des gens ont créé le système étendu, les partitions étendues, qui permettaient grosso modo de contenir plus de partitions. Enfin, c'était une petite astuce, mais qui aujourd'hui est un peu caduque, puisque maintenant, on a autant de partitions qu'on veut, je crois. On en a 128, je crois. Et on va créer une partition de 19 gigas. Voilà, j'ai une plus 19 gigas. Et je vais créer une deuxième partition primaire qui, cette fois-ci, fera le reste du disque dur, c'est-à-dire 1 giga. Alors, menu, on va quitter et sauvegarder. Donc, W, write table to disk and exist. Et voilà. Et donc si on regarde la liste des disques durs, avec la commande que j'avais utilisée tout à l'heure, on voit que j'ai toujours mon disque dur SDA de 20 gigabits. Et plus bas, on voit que dans le device, il y a SDA1, SDA2, qui sont des lignes qui n'apparaissaient pas tout à l'heure. Et on voit le size 19 gigas et l'autre 1 giga, 1023 mégas, pour être précis. Et donc c'est mes 2 partitions. Donc je vais installer mon système Linux sur SDA1. Et la SDA2, ça va être la swap. Comme ça, on va pouvoir un peu parler de swap. Deuxième chose à faire, une fois qu'on a fait nos partitions, c'est de formater chacune de ces partitions. Alors, il y a une commande qui s'appelle mkfs sous Linux et qui vous liste la liste des partitions, la liste des systèmes de fichiers disponibles. Un système de fichiers, pour vous expliquer concrètement, c'est grosso modo, ça veut dire comment vos programmes, comment tous vos fichiers sont stockés en fait sur vos disques durs. À partir d'où le fichier commence, jusqu'à où il termine. C'est ça qui va gérer la fragmentation ou la défragmentation de vos fichiers. Ça va gérer, ça va potentiellement avoir un impact sur la vitesse et de lecture et d'écriture de vos fichiers. Ça va avoir un impact sur la capacité que vous aurez à récupérer les fichiers. Ça va gérer les capacités à chiffrer vos disques durs. Ça va permettre de gérer beaucoup de choses en fait. Sur Windows, le système de fichiers par défaut c'est NTFS, qu'on voit d'ailleurs dans cette liste là, juste à droite. Et sous Linux, alors historiquement, le système de fichiers par excellence c'est EXT4. Depuis, il y a des systèmes de fichiers un peu plus modernes qui sont apparus, comme par exemple BTRFS ou BitTreeFS, ou par exemple XFS. Et pour ceux qui n'aiment pas leur femme, vous avez toujours RazerFS. Donc là, on va formater la partition en X4. Alors la commande, pour être exact, ça va être mkfs. Donc on va faire mkfs.ext pour /dev/sda1, donc le disque dur A, partition 1. Ça, le format. Et ça écrit en next4. Et on va faire la même chose. Et on va faire, pardon, pas la même chose. On va créer en fait la swap, mkswap, pour la deuxième partition. Alors, à quoi sert la swap, concrètement parlant? Oula. /sda2, pardon. À quoi sert la swap? Alors, si vous avez un système d'exploitation, si vous avez une machine qui a que, admettons, 4 Go de RAM, et que vos programmes commencent à utiliser beaucoup trop de RAM, et s'ils saturent votre RAM, c'est-à-dire que vous avez en théorie besoin de plus de 4 Go pour faire tourner l'ensemble des programmes sur votre machine, le système va exploiter ce qu'on appelle un swap. Donc ça peut être soit un fichier, soit une partition à part, comme fait Linux. Et donc là, du coup, grosso modo, si jamais la quantité de RAM que j'ai allouée à mon système n'est pas bon, c'est-à-dire que là, je lui ai donné, je crois, 16 Go, bah, il pourra taper dans la swap, tout simplement. Ouais. Je vous montrerai tout à l'heure, du coup, comment ça se modélise visuellement grâce au gestionnaire de processus. Mais normalement, sous Windows, vous pouvez peut-être le voir avec le gestionnaire d'étage. Maintenant, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Obi-Wan, sur les systèmes de fichiers, ou quelqu'un a-t-il quelque chose à rajouter sur les systèmes de fichiers? Si des personnes veulent prendre la parole et rajouter des choses, compléter sur ce que je présente, allez-y, hein, y a pas de souci. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des questions en vrai? C'est une bonne question.
En fait, ouais, sur la base, en fait, ouais, on peut dire un disque dur, en gros, c'est découpé en un certain nombre de secteurs, en général de 512 octets. Donc un contrôleur à disque dur, il peut lire par un petit bout de 512 octets. En général, tout au début du disque dur, tu as une table de partition qui va pouvoir en gros découper le disque dur en plusieurs partitions, en plusieurs parts. Et chaque partition contient un système de fichiers qui permet d'enregistrer les permissions et les dossiers et les fichiers.
Alors, question de Twiz. Swap égale une partition à part, on ne peut pas utiliser l'espace libre du disque dur de données, par exemple? Oui, ça s'appelle un swap file. Donc c'est ce que je disais, on peut utiliser soit un fichier, soit une partition à part entière. Après, utiliser une partition à part entière, ça peut avoir quelques petits avantages. Je ne sais pas si on peut faire ça avec un swap file, si on peut hiberner son ordinateur. Ça, à vrai dire, je ne sais pas. Si quelqu'un a la réponse.
Ça marche. Allez-y. Avec la CPI, les trucs d'hibernation, ça marche avec la CPI. Il n'y a pas que ça, mais ouais, avec la CPI, normalement, ça va envoyer un certain signal au système d'exploitation quand tu appuies sur le bouton power. Et il est censé effectivement écrire toutes les pages sur le disque dur, mais ça, c'est pas du swap, ça. Le swap, c'est ouais, c'est pour quand t'as besoin de plus de mémoire que ce que t'as de physique. Parce que toute la mémoire est découpée. En fait, c'est avec le système de mémoire virtuelle, en fait. Les CPU qui ont un mode comme ça, quasiment tous les CPU, ils ont ça. C'est-à-dire qu'ils vont découper la mémoire en petites pages, et chaque process, en fait, il va avoir ce qu'on appelle un index de page. C'est une table qui va contenir un certain nombre de pages qui vont mapper, en fait, une adresse virtuelle à une adresse physique. Et ce qui fait que l'adresse physique, elle peut changer en cours de route, ce qui fait qu'on peut passer, une adresse physique à de plusieurs adresses virtuelles, et on peut, étant donné que ça correspond pas à un emplacement dans la mémoire physique, dans la RAM. Ça, c'est le CPU qui fait ça, quoi, ça. Ce qui fait que le swap, ça permet d'enregistrer des pages qui, effectivement, qui vont pas être utilisées. En fait, vu qu'il y a plusieurs process, en fait, chaque process va pas forcément utiliser les mêmes pages au même moment. Et donc, on peut, dès qu'un process va être, dès qu'en fait, quand il y a plusieurs process, ils vont être intercalés, en fait. Ils vont avoir chacun un petit temps de CPU et un temps de pause. Et on peut charger les pages éventuellement des process, du disque dur ou du swap. Si la somme des process ont besoin de plus de mémoire, qu'est-ce qu'il y a de.
Du coup, suite de l'installation. Donc, on a fait nos partitions. Donc là, notre disque dur, il est vide, il est partitionné, il est formaté. Donc, on va faire le Mount the File System. Donc, en gros, on va dire notre disque dur. Donc là, on est sur en fait un environnement, ce qu'on appelle live, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un disque dur, on est juste sur la mémoire vive de la machine, si vous voulez. Et donc, on va. Alors, si j'ai le focus. La machine virtuelle, je crois, a planté. Ce qui est cocasse. Non, c'est bon. Par contre, est RAM de fou. Ok, bon. C'est. Ouais. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter la partition en question. Sur mon environnement là de travail, donc SDA 1, donc la partition où il y aura mon système, pour l'instant il n'y a rien, je vais le monter ici, dans le dossier prévu à cet effet. Je vais mettre un swap on, je vais activer donc la mémoire swap de cette part du disque, et on va. Cocasse ça, si je fais pas ça. J'ai activé donc le swap de mon disque et on va pouvoir passer à l'installation. Donc pour passer à l'installation, Arch Linux file une commande toute faite. Et cette commande toute faite, alors je vais mettre à côté, c'est packstrap slash mnt et on va installer donc la base Linux et tout ce qui est firmware. Et donc là, il va m'installer le logiciel de base pour Linux. Et donc on revoit par exemple ACL, Access Control List. Il y aura d'autres programmes en plus parce que Arch Linux a quand même la vocation d'être un peu plus utile, on va dire, que Linux from scratch. Mais grosso modo, vous retrouverez quand même pas mal de ces logiciels. Vous aurez GetText, vous aurez GNUGP, vous aurez GCC, vous aurez. Alors le gestionnaire d'init ici ne c'est pas sysvinit mais il s'appelle systemd. Vous aurez tout ce qui concerne, vous aurez le noyau Linux, vous aurez tous les firmwares pour tous les firmwares de votre matériel. Enfin bref, je vous en passe à des meilleurs. L'installation devrait se faire assez rapidement. Merci ma connexion. Donc voilà, les logiciels s'installent donc un à un. 114, c'est bon. Et donc ensuite, une fois qu'ils seront installés, on va devoir configurer le système. Et on aura toujours un système assez basique, hein, je préviens. Tatatin, ça finit. Voilà. Donc, au niveau de la configuration, chose qu'on va faire, c'est générer un ftab. Alors, un ftab, qu'est-ce que c'est? Plus assez grand, j'arrive plus à voir ce que j'écris. Alors, GenFStab, ça va grosso modo dire comment sont les partitions, comment sont les disques durs de mon système, afin ma machine sache sur quelle partition booter, quelle partition je vais devoir ce qu'on dit monter. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez votre partition système et que vous avez une partition avec des données, parce que vous voulez avoir vos données séparées ailleurs, sur une autre partition, histoire de séparer les deux et pouvoir installer votre système à la volée, avoir vos données à l'abri quelque part, ça va vous dire comment on va monter ces trucs-là. Donc typiquement, si on regarde le fichier qui est généré, ça va me dire, là, j'ai une partition slash de type X4, comme j'avais dit tout à l'heure, le système de fichiers extra S4, et on a donc une partition swap qui est de type swap, tout simplement. Si j'avais d'autres disques durs, par exemple, je vais vous montrer sur ma machine à moi, si je vire le focus de la machine virtuelle, si je vous regardez une autre mon disque dur, vous verrez qu'il y a ma partition slash, et ensuite vous avez un deuxième disque dur et un troisième disque dur qui est monté, et donc ils sont décrits là. Comme ça, à chaque démarrage, j'ai pas besoin de dire va chercher mes disques durs, ils seront automatiquement montés pour que je puisse accéder au fichier rapidement, facilement, sans avoir à faire quoi que ce soit. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir on va pouvoir se connecter entre guillemets sur la machine, sur le disque dur. On va ce qu'on dit shrouter sur la machine. Merci le lag. /MNT. Donc là, vous voyez que le logo est un petit peu changé. Je suis plus en rouge ou en blanc. Donc en fait, je suis concrètement parlant sur mon disque dur. Sur le disque dur sur lequel j'ai installé déjà la base de mon système. Et on voit du coup un certain nombre de dossiers qui ont été créés. Bin, boot, dev, etc. Home, lib, etc. etc., etc. J'ai peut-être passé sur la hiérarchie du système de fichiers de Linux et vous expliquer à quoi servent tous ces dossiers. Grosso modo, dans Bin, vous aurez en fait plein d'exécutables. Alors, sans le L, ça va être peut-être meilleur. Vous aurez plein d'exécutables. C'est là où vous allez retrouver, par exemple, l'exécutable de Firefox ou de Discord. Dans etc, vous aurez c'est un dossier qui s'appelle edit to configure, donc c'est plein de fichiers de configuration pour configurer votre système, à quoi il va, comment il va fonctionner, comment il va se comporter même. Vous avez le dossier librairie qui va vous dire quelles sont les librairies possibles et utilisables par tous les programmes de votre système. Donc par exemple OpenSSL, c'est une librairie qui permet de faire du chiffrement, ce genre de choses. Bon. C'est assez spécifique, plus pour les développeurs, donc je vais pas forcément m'étendre là-dessus. Et on va continuer la configuration, comme ça on va passer à la partie un peu plus concrète déjà. Donc on va passer à une chose toute bête, c'est que si on écrit date, l'heure normalement devrait être complètement à la ramasse. 19h46, il n'est pas 19h46. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir l'heure. Tac, on est a priori en Europe et à Paris. Voilà. Donc maintenant la date est un peu plus correcte, 21h47, c'est bon. On va synchroniser ça avec l'heure du matériel de la machine, du BIOS. Enfin techniquement de la carte mère. Ensuite, on va gérer la langue du système. Forcément. Nano. Alors, on va aussi installer déjà pour commencer un éditeur de texte. Voilà. Parce que sans éditeur de texte, je pourrais pas faire quoi que ce soit. Donc en fait, là, je suis sur un système qui est fonctionnel, puisque depuis tout à l'heure, je peux faire des choses. Et là, par exemple, je n'avais pas d'éditeur de texte. Donc un éditeur de texte n'est pas quelque chose qui vient par défaut avec un système d'exploitation, comme vous pouvez le remarquer. Donc même un truc aussi basique que ça, c'est pas forcément... c'est pas ce qu'il y a de plus intuitif. Alors, on est en français. Hop là. Pardon. Voilà, donc je mets la langue en français. On va générer ça. Comme ça, au prochain démarrage, tout sera en français. Mon système ne sera pas en anglais. On va rajouter ici local.conf. Donc, langue est égale à fr.utf-8. Donc on se met en français. On va donner un nom à la machine, le hostname. Tac. After thinking. Livre blanc. Un nom très. Je ferai de beaucoup d'imagination pour le nom de cette machine. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Ah. Vim slash etc. Slash vconsole.conf. Keymap. Ça, c'est pour la. La. Comment dire? Pour. Quel genre de clavier j'ai? Est-ce que c'est un clavier anglais, AZERTY ou QWERTY? Donc là, je vais dire, je veux un clavier en français, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Ça, c'est déjà fait. Je vais définir un mot de passe pour mon compte root. Je vous laisse deviner le mot de passe, mais j'imagine que tout le monde l'a deviné. Et voilà. Et donc là, mon système, il est installé. Mais il lui manque le bootloader. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du bootloader. Donc, le bootloader que je vais installer, il s'appelle Grub. Si, voilà, il ne galère pas trop. Donc, voilà. Donc, Grub, comme je vous ai expliqué, donc c'est l'amorceur, c'est lui qui va me dire sur quel système je veux booter, je veux démarrer. Tout à l'heure, vous verrez à quoi ça ressemble. Ça sera. Il faut être un tout petit peu patient. Et Grub doit se configurer. Là encore, donc toujours des configurations à faire. Installation. Tatatitatata. EFI, je n'ai pas besoin. On passe directement à là. Et donc c'est grub-mkconfig-o slash boot slash grub.config. Voilà. Donc en fait, si je vais voir le fichier que j'ai généré, qui va dire à quoi ressemble mon système. J'ai l'impression qu'en fait, ça rajoute un truc. Voilà.
Bonsoir.
Je suis désolé. De such file. Alors, désolé. Petit problème. Ah oui, bah forcément, je suis bête. Faut lui dire. Ça fait longtemps que j'ai pas installé Arch Linux, je suis désolé. 386-pc slash dev slash sda. Voilà. Et maintenant, je peux générer le fichier de configuration. Voilà. Et donc ça, c'est ce à quoi ressemble le fichier qui vous dit comment démarrer sur une machine. Donc ici, si j'avais Windows, à un endroit, il y aurait écrit... donc là, il y a le kernel Linux, et là-bas, il y a le système Windows. Et il me donnait, c'est là où je pourrais décider... c'est là où je pourrais lister la liste des systèmes d'exploitation sur lesquels démarrer. Enfin bref, c'est pas très intéressant. Pour les personnes qui ont les compétences techniques, vous pouvez aller dedans, aller configurer ce genre de choses. Vous pouvez même modifier l'apparence du Grub au démarrage. Bref. En tout cas, Grub s'est installé, donc j'ai un bootloader. Et techniquement, je devrais pouvoir redémarrer. Alors, je vais installer 2-3 dernières choses, puisque c'est très important. Pacman-s. Donc Pacman, c'est un gestionnaire de fichiers, c'est un gestionnaire de paquets. C'est ce qui permet d'installer des logiciels sans avoir à les rechercher sur internet toutes les 3 secondes. Je vais installer de quoi faire du réseau. Ça m'évitera 2-3 tracassements. Je vais activer cet outil qui va me permettre de toujours avoir du réseau, parce que sinon je n'aurai pas d'internet quand je vais redémarrer ma machine. Et normalement, si je redémarre... Alors, attendez. Normalement, j'ai plus rien à faire, donc on va pouvoir quitter et redémarrer. Voilà. Et donc, en redémarrant... Ah oui, c'est une machine virtuelle, il faut que j'enlève le disque dur. Autant pour moi. Alors, papapapapam, je vais faire ça rapidement. Tac, configuration. Tac, stockage. Ici, je vais virer ça. Mais c'est bizarre. Je vois. Fermer, éteindre la machine. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Et là, cette fois-ci, je peux virer. Ouais. Supprimer. Ok. Et donc là, je vais pouvoir me démarrer sur ma machine. Et là, si je me suis pas foiré, voici à quoi ressemble un bootloader, donc GRUB, comme que j'ai installé tout à l'heure. Donc là, ça me donne le choix de démarrer soit sur Arch Linux, soit d'aller sur des options avancées pour Arch Linux, mais ça va pas être très intéressant. Si j'avais Windows installé, ça m'aurait proposé juste en dessous Windows, Windows Vista, Windows 11, Windows 10, peu importe. Et si j'avais d'autres systèmes d'installer, ça m'aurait proposé TempleOS, ça m'aurait proposé, je sais pas moi, Manjaro, Ubuntu, qu'importe. Donc on va démarrer sur Arch Linux, et voici à quoi ressemble du coup un système de base. Et vous allez voir que c'est pas la joie. Tout simplement, ça. Donc je me connecte, et voilà. Donc ça, messieurs, c'est un système de base, où je n'ai pas grand-chose installé, et vous comprendrez que c'est pas très 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 utile. Du coup, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? S'il y a des questions, n'hésitez pas à me couper. Hein. Et si vous avez des choses à compléter au niveau des outils que j'ai installés ou ce genre de choses, Obi-Wan ou qui que ce soit, allez-y. Hein. En tout cas, du coup, on va dans les...
Par contre, t'as une équipe qui répond aux questions en live.
D'accord.
C'est pour Expo.
Ouais, mais du coup, pour les personnes qui écoutent éventuellement le podcast, c'est peut-être pas forcément... pratique pour eux puisqu'ils n'ont pas accès au chat.
Bonsoir, salut Zilot.
Ouais, salut.
Ah, ça me parle, moi, ce que tu fais là par rapport au kernel.
Alors, au niveau de la suite du programme, puisque maintenant on a un système. Alors là, on a un système qui est fonctionnel, donc c'est une distribution complète installée. Mais comme vous imaginez, on ne peut pas faire grand chose. Donc déjà, je vais vérifier que. J'ai bien internet en pingant le site de l'Afterthinking, que je ping. Donc le site de l'Afterthinking n'est pas down, ce qui nous permet de vérifier ça. Et on va faire les trucs les plus pratiques. Déjà, on va essayer d'avoir de l'affichage. Pour avoir de l'affichage, il y a un truc qui est très important sur un système. Il faut un serveur d'affichage. Il faut un truc qui va dire, grosso modo, comment... on va afficher des trucs à l'écran en utilisant donc la carte graphique soit qui est intégrée au CPU ou la carte graphique dédiée. Sur Linux, il y a deux serveurs d'affichage qui existent, Xorg ou Wayland, qui est beaucoup plus nouveau. Donc là, on va installer Xorg. Donc Xorg, c'est un très vieux truc, ça a au moins 30 ans, je crois. Et donc pour l'installer, le guide nous dit il faut installer le paquet xorg-server. Pouf. Et là, ça veut... Alors, magie du gestionnaire de paquet, xorg-server n'est pas la seule chose qui est utile. Dedans, vous avez plein de librairies qui vont justement permettre de gérer tout ça. Et donc, vous voyez leur nom défiler à l'écran un peu rapidement. Vous aurez tout ce qui concerne, par exemple, les affichages de fenêtres ou ce genre de choses. Mais vous aurez, par exemple, tout ce qui concerne, si jamais vous voulez faire tourner un jeu vidéo, tout ce qui concerne les bibliothèques 3D, comme OpenGL ou Vulkan, ou DirectX pour Windows. Normalement, les firmwares sont par défaut installés, surtout que je suis sur une machine virtuelle, donc je ne devrais pas avoir grand-chose installé. Voilà. Une fois qu'on a un serveur d'affichage, le serveur d'affichage sert juste à dire au programme comment afficher des trucs. Donc concrètement, là, j'ai toujours pas de graphisme. Donc, il nous faut ce qu'on appelle un environnement de bureau. Un environnement de bureau, c'est grosso modo, concrètement, c'est ça. C'est là ce que vous voyez sur mon écran, c'est ça. C'est le petit menu à gauche, la barre des tâches en bas, toutes les petites icônes à droite qui me disent l'état de mon système, les notifications, etc. Et c'est lui qui me permet, entre autres, de gérer mes fenêtres, tout simplement.
Excuse-moi de te couper, Zilot, c'est oui. Quoi comme OS que tu utilises ?
Là, c'est Arch Linux.
Arch Linux, d'accord.
Et je présente du coup une installation d'Arch Linux, puisque du coup, ça permet de... Merci de pas le DDoS. J'essaierai, Melk, j'essaierai de pas le DDoS pendant le livre blanc. Et donc du coup, où j'en étais ? Donc du coup, on va commencer par installer du coup un gestionnaire de bureau. Ta-ta-ta-ta-ta. Alors, où est-ce que je suis ? Graphical User Interface, voilà. Un desktop environment. Je vais installer un système d'environnement. Je vais installer XFCE parce qu'en vrai, il est léger et rapide à installer. XFCE. Ta-ta-ta-ta-ta. Ils me disent installer XFCE4. Bon, c'est cool. Je vais installer XFCE4. Donc, pacman-s XFCE4. Cool. Allez. Et là, vous voyez qu'il y a plein de trucs qui s'installent en même temps. Qu'est-ce qui s'installe en même temps ? En fait, grosso modo, vous aurez plein de trucs qui vont être liés, grosso modo, à l'utilisation que vous aurez tous les jours d'un ordinateur. Donc que ce soit pour afficher des images, que ce soit pour afficher des graphismes, que ce soit pour gérer du son. Par exemple, en plein milieu, à gauche du curseur, parce que malheureusement je peux pas mettre un curseur dessus, vous avez un truc qui s'appelle libpulse-15.15-01. Libpulse, typiquement, c'est une librairie qui va permettre de faire de la gestion de son en fait pour vos programmes. LeakVorbis, pareil, ça va être une librairie pour utiliser tout ce qui est certaines extensions de son. Vous avez libusb qui, vous devinez un peu son utilisation. Une librairie, une bibliothèque qui va vous dire comment utiliser tout ce qui concerne l'USB. Pas forcément que des clés USB, mais l'USB de façon générale. Donc vous aurez plein de trucs comme ça. UPower, Xorgzinit. En fait, vous aurez plein de programmes qui vont permettre de démarrer le bureau et gérer votre bureau. Plus loin, vous avez ici, à cette ligne-là, tout en bas, Tunar, qui en fait, je vous le montre, le gestionnaire de fichiers. Donc ça s'appelle Tunar. Donc vous voyez, à propos, Tunar. Vous aurez à côté Tunar-Volman, qui permet de gérer le montage et le démontage de vos disques durs. Donc si vous voulez monter une clé USB ou ce genre de choses, ça sera grâce à ce truc-là. Enfin bref, je vais pas vous le faire dans le détail, mais vous comprenez un peu quel genre de logiciel ça va s'installer en même temps. Oula. Et on va procéder à l'installation. Si la machine virtuelle le veut bien. Voilà. Donc en espérant que ça aille pas trop lentement, mais normalement ça devrait aller à quelques 7, 8, 10 mégas par seconde. Ça devrait pas trop prendre de temps. Et si on veut tester, voilà. Magie. Une ligne de commande. J'ai installé le programme, j'ai lancé une ligne de commande et j'ai enfin, j'ai envie de dire, une interface graphique. Donc une interface graphique avec mon répertoire personnel. Donc je peux gérer mes petits fichiers, je peux les déplacer, voilà, je peux aller dans desktop, je peux faire créer un dossier, hop, je peux faire créer un document vide, bien entendu. Je peux faire tout plein de choses. Donc c'est plutôt cool. Mais vous allez voir que si jamais je redémarre ma machine, ça va pas être la joie puisque je redémarre et je serai toujours et encore sur une interface noire. Donc j'ai un bureau, mais il n'y a rien qui se lance au démarrage. Il faut que je lance manuellement. Pour ça, il me faut un autre outil qui n'est pas du coup un gestionnaire de bureau, mais on appelle ça un display manager, un gestionnaire d'affichage. En fait, ça va être un programme qui va se lancer automatiquement au démarrage et qui va me proposer de me connecter, mais de façon graphique, en choisissant le bureau sur lequel je vais me connecter, en choisissant l'interface graphique sur laquelle je vais me connecter. Et comme display manager, je vais installer un truc qui s'appelle LikeDM. Pour ceux qui connaissent LikeDM. Donc on va aller dans installation et on va installer ça. Alors, l'installation, on va faire Pacman, toujours le gestionnaire de paquets qui va me dire LikeDM. Et on va en plus installer ce qu'on appelle un greeter, donc c'est celui qui va me dire quels sont tes logins, quels sont tes mots de passe. Donc ça aussi, il faut lui dire gtk-greeter, voilà. Malheureusement, je sais pas pourquoi la machine lag un peu. C'est très embêtant. Oui.
C'est toujours Pacman, le gestionnaire de.
Oui.
Alors. Pour Arch Linux.
Pour Arch Linux, c'est toujours Pacman. Si vous avez une autre distribution, par exemple Ubuntu, Debian, Xubuntu, eux vont utiliser APT pour toutes les distributions Fedora, CentOS, Red Hat Enterprise Linux. Ça va être de mémoire DNF, sauf si ils ont changé. Je me rappelle jamais. Ils ont changé à plusieurs reprises.
C'est pas RPM ?
Ah, c'est peut-être RPM. Ils ont peut-être changé, ouais. Je me rappelle plus. Ils ont changé il y a un temps et je sais plus. Ils sont allés du quel au quel parce que j'ai très rarement utilisé Fedora ou CentOS ou Red Hat.
Je voulais savoir, Yum, c'est aussi un installateur, c'est ça ?
Quoi donc ?
Yum.
Yum ? Yum, c'est un gestionnaire de paquets qui est sur Arch Linux, mais en fait c'est un gestionnaire de paquets un peu spécial puisque il ne sert, enfin, il peut installer les paquets officiels, mais il sert surtout à accéder à un répertoire d'applications des utilisateurs, des D'accord. trucs qui sont pas officiels. C'est un truc en plus. Donc une fois qu'on a installé cet outil, donc Display Manager, il faut l'activer. Comme ça, grosso modo, à chaque démarrage, bah, il va se lancer. Et donc, si je redémarre, en théorie, si je me suis pas foiré, or j'aime bien me foirer dans ma vie. Oh, pardon. Voilà. Il me lance une petite interface graphique. Alors, elle est très sommaire, certes. Le fond d'écran, il est noir parce que bah, j'ai pas configuré de fond d'écran. Mais bah, il me donne le nom de la machine, Afterthinking LB pour livre blanc. Ici, bah, je peux choisir potentiellement le bureau sur lequel je veux démarrer. Ici, il y a les options pour les personnes qui ont un petit déficit visuel, pour avoir du texte plus large, par exemple. Oula. Par contre, sur un si petit écran, c'est pas pratique. Ou avoir un contraste élevé pour les daltoniens. Il me donne la date, hop, je peux toujours démarrer, redémarrer mon PC. Et bah, je vais me connecter, parce que maintenant j'ai un bureau. Voilà. Je vais aller dans les paramètres parce que normalement le clavier par défaut est en anglais, donc il va falloir que je gère ça. Tac tac tac, disposition. Utiliser paramètres par défaut. Voilà, je vais mettre en français. Français, français. Alors, ce qui est bien avec Linux, c'est qu'il vous propose beaucoup de choix. AZERTY, AZERTY, BEPO, Breton, Dvorak, Macintosh, US, il y a plein de variantes. Bref, on va prendre celle-ci que j'aime bien. L'anglais, je supprime parce que j'aime pas les anglais. Ils arrêtent pas d'essayer de nous envahir. Et ça me plaît pas. Et ben voilà, en fait. J'ai envie de dire, on a presque terminé en soi l'installation d'un tel système. Alors je vais juste aussi configurer l'affichage. Comme ça, vous aurez un plus grand écran. 1520 par 1080, ça me paraît pas trop mal. Voilà, vous verrez mieux maintenant. Conservez cette configuration, voilà. Et donc voilà un peu les logiciels assez basiques qu'il faut installer pour avoir un système qui ressemble à quelque chose. Après, il y a plein de choses à installer. Par exemple, maintenant que j'ai une ligne de commande, ici, on va par exemple installer Firefox. Bon, voilà. Et donc là, j'aurai après un navigateur. Mais de la même façon, si je cherche des logiciels, j'aurai pas grand chose. J'ai pas de suite bureautique, je n'ai pas de lecteur de musique, je n'ai pas de lecteur vidéo, je n'ai absolument rien. Et Par exemple, si maintenant que j'ai ça, je vais sur... Alors, et maintenant, si j'exécute Firefox, typiquement...
Il prend combien sur le disque dur, là, comme ça, vide ?
Bonne question. Attends. Je vais juste montrer une dernière chose. Bah, par exemple, typiquement, si je vais sur la page de Tokyo, sur Wikipédia, bah, en fait, vous voyez que j'ai un problème de caractère. Donc, je n'ai pas les polices japonaises, je n'ai pas les kanji, j'avais pas les polices chinoises. Donc, en fait, il manque encore énormément de choses pour que le système soit sans bug, entre guillemets. Alors, c'est pas des bugs, c'est fait exprès. Parce que techniquement, si vous n'avez pas besoin de la localisation d'une langue, bah, pourquoi l'installer, pourquoi l'avoir ? Le système, bah, par défaut, il a aucune raison d'en avoir un, hein, ça peut être dans un système d'exploitation minimale. Donc du coup, c'est des choses à installer. Voilà. Par défaut, il me semble que c'est df-h. Il prend 3,3 gigas. Avec une interface graphique, avec Firefox, voilà. 3,3 gigas. Comparé aux 20, 30, 40 gigas que prend Windows, c'est sûr que c'est assez léger. Est-ce qu'il y a des questions, du coup, par rapport à tout ce qui s'est passé, à tout ce que vous avez vu, par rapport au programme que j'ai présenté ? Alors, il y en a plein d'autres encore, des programmes que je pourrais présenter, parce que là, du coup, il manque beaucoup, beaucoup de choses encore pour avoir un système fonctionnel. Donc, est-ce que déjà, il y a des questions, des trucs auxquels on peut répondre sur... Tout à l'heure, on parlait d'init, on parlait de grub, on parlait de... serveur d'affichage. Ouais, entracte, allez, hop, relance les votes, ça sera bien.